France Culture.
Le tatouage est une façon de s'écrire. Demandez à n'importe quel tatoué sur Terre et il vous dira que c'est vrai. Oui, nous sommes des corps en cours d'écriture. Et nous sommes bien écrits, puisque nous choisissons notre narration symbolique.
Extrait de « Éloge du tatouage » d'Héloïse Gay de Bellicène.
Je plains presque ceux qui restent avec des peaux vierges sans aucune rature, sans aucun dessin, alors que nous, nous sommes le manuscrit d'un roman qui n'aura pas de fin, mis à part la nôtre. S'écrire pour ne pas trop mourir, ne pas rester seul, se peupler. Passer une vie sans être tatoué par rien, ce serait une vie plate, sans saveur véritable, et surtout sans risque. Moi, je vais être tatoué de toutes les expériences que la vie peut offrir, même les pires.
Tatouage, des mondes sur la peau. Une série documentaire de Jérôme Sandelars, réalisée par David Jacoboviez. Épisode 3, une thérapie par l'aiguille.
En quoi les tatouages qui recouvrent votre corps vous racontent, Héloïse Gay de Bellicène?
Ah, c'est une belle question. En fait, je l'ai fait tellement instinctivement que j'ai du mal à savoir ce qu'ils racontent. Ils racontent des instants, en fait, des moments de moi. Ils racontent aussi tout ce que j'ai été, tout ce que je suis. À 44 ans, évidemment, on a été plusieurs. Et ils sont comme une armure, en fait. Ils me servent de, pourquoi pas, de gris-gris. Ils sont là pour m'aider. En fait, grâce à eux, je suis jamais nue, par exemple. Et j'ai pas envie d'être nue. J'ai envie d'être dessinée, j'ai envie d'être peinte, j'ai envie d'avoir des mots. Je me préfère comme ça, en tout cas. Ça me ferait très bizarre de me voir sans tatouage.
Héloïse, comment tous ces tatouages ont été perçus par vos proches, par votre famille? Puisque vous êtes tatouée des... Alors, je vais pas dire des pieds à la tête, parce que vous n'en avez pas sur le visage, mais presque partout.
Ma mère, ça l'a beaucoup choquée, oui. Donc, non, ça lui a pas plu. J'ai même menti au début. Je lui ai dit que c'était du stylo bic et que ça partait. Et elle m'a cru. Et après, elle a laissé faire. De toute façon, c'était foutu, j'en avais trop et... Mais ça choque beaucoup les mères. Hein. On m'en parle régulièrement, d'ailleurs, au Salon du Livre. J'ai beaucoup de mamans qui achètent les livres que j'écris sur le tatouage parce qu'elles veulent comprendre. Et c'est vrai que pour elles, c'est comme si leur enfant, c'était leur œuvre et qu'il ne fallait pas y toucher.
Quand on a les mots pour s'exprimer, qu'est-ce qui fait qu'on a recours au tatouage?
Parce qu'en fait, le tatouage, c'est une narration. Une narration de soi. Alors... Parfois, il y a des mots, c'est vrai, dans les tatouages, mais parfois, il y a beaucoup de dessins. Et c'est une histoire, en fait, qu'on raconte. Donc, en fait, c'est des mots. L'écriture et le tatouage, en fait, ça se fait écho. Enfin, pour moi, ça se mélange. Le tatouage et l'écriture, même combat. je dirais même qu'en fait, je suis une grande collectionneuse de machines à écrire. Et que la machine à écrire, par exemple, c'est du tatouage. Quand on frappe sur la lettre A, elle se tatoue sur la feuille. Cette idée de la gravure, du geste imprimé, du mouvement, du bruit, qu'on a perdu aujourd'hui dans la façon d'écrire, dans le geste d'écriture, mais qu'on retrouve dans le geste du tatouage.
Comme je dis toujours, hein, notre corps tatoué, il est un peu comme un album de souvenirs, quoi, quelque part. C'est que symbolique. Le tatouage n'est que symbolique, en fait. Même quand on ne veut pas, ça reste symbolique.
Sophie Dunoyer, dite la marquise de Salem, tatoueuse.
Faire un dessin sur la peau à vie, c'est pas rien, quand même. Ça veut toujours dire quelque chose, même quand ça ne veut rien dire, et même quand c'est par mode, entre guillemets, et pour faire comme les autres, on ne fait jamais vraiment comme les autres. Il y a toujours un désir personnel derrière. Il y a toujours un truc. Quand on gratte un peu, il y a toujours un truc.
Des tatouages, Sophie, vous n'en avez pas que sur le visage?
Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il représente? Sur les mains, j'ai un mandala plutôt abstrait sur la main gauche. Sur la main droite, j'ai un tiki de Nouvelle-Zélande que j'ai fait en Nouvelle-Zélande. un voyage super, donc je voulais rapporter un souvenir. Sur les mains, j'ai des formes géométriques, mais qui sont des symboles alchimiques. Voilà, j'ai les différents éléments. Le dieu père et la déesse mère, ça c'est des choses plutôt païens, voilà, qui m'intéressent, mais des choses de planètes. Des planètes qui sont la mienne et mon ex-mari. Bon, bah, il s'efface, c'est très bien. j'en ai dans le dos, j'en ai sur le ventre, enfin j'en ai beaucoup. Sur le torse, sur les jambes, enfin oui, je suis très tatouée, oui.
Mais qu'est-ce qui représente pour vous tous ces tatouages ?
Une enveloppe. Je pense que je manquais de contenant. Et ça m'apporte ça, une protection, d'une certaine façon. Donc, au-delà de la symbolique qu'il peut y avoir, le fait d'être entièrement tatouée me rassure beaucoup. Je n'ai jamais aimé mon corps, et je trouve que mon corps tatoué est bien plus beau qu'un corps nu sans tatouage. Mais en général, je trouve que les beaux corps sont tatoués. Puis j'ai une espèce de réflexe de tatoueuse. Quand je vois des gens avec une très belle peau vierge, je ne peux pas m'empêcher d'imaginer des tatouages dessus. Un petit dragon. Une magnifique toile vierge comme ça, là, ça donne des envies de création dessus.
Si je vous entends bien, Sophie Dunoyer, c'est comme si vous aviez besoin de vous créer une nouvelle peau. Vous dites, je ne m'aimais pas comme j'étais, et je m'aime mieux avec mes tatouages. Donc c'est ça le tatouage, c'est se créer une nouvelle peau, une nouvelle identité ?
D'une certaine manière, oui.
Expliquez-nous.
On va revenir sur le moi peau de Didier Anzieux. Didier Anzieux, c'est un psychanalyste qui a créé ce concept donc de moi peau. Et l'idée, c'est qu'en fait, quand on est bébé, le premier contact qu'on a avec le monde, c'est à travers le corps, en fait. À travers le toucher, le contact, le fait d'être tenu, d'être bercé, d'être... En fait, ce sont des expériences qui peuvent créer une espèce d'enveloppe de protection. C'est un concept qui est original par rapport aux autres concepts de psychanalyse, en fait, parce que du coup, on place le corps au centre de la construction de soi, avant la parole ou la pensée. Voilà. Et ce concept du moi-peau, je trouve qu'il aide bien à comprendre le tatouage. Parce qu'en fait, quand on se tatoue, ça fait presque une autre peau qui va combler les fissures, d'une certaine manière. Comme si c'était un peu un pansement de peau, quoi, quelque part. Symboliquement, il y a un peu de ça.
Vous, Sophie Dunoyer, en tant que tatoueuse, vous avez été amenée à avoir pour clients ou clientes des femmes après une mastectomie, donc après un cancer du sein. Certaines ont recours à la chirurgie pour une reconstruction mammaire, d'autres pas. Vous avez été aussi exposée à des gens qui ont vécu un deuil, à des femmes qui ont été victimes d'agressions sexuelles. Ouais. Et vous avez rédigé un mémoire sur la portée thérapeutique du tatouage. Vous posez la question. Oui. Est-ce que le tatouage est thérapeutique?
Alors, il est thérapeutique, mais ce n'est pas une thérapie. C'est vrai qu'il faut vraiment dissocier les deux. À travers le tatouage, l'inconscient va parler, l'inconscient va sortir et va, sur la peau, va sortir, va s'exprimer. Mais avant qu'il y ait une prise de conscience et qu'il y ait quelque chose qui se répare, ça ne peut pas se faire avec le tatouage. Voilà. Il va combler effectivement des manques, il va répondre à un moment particulier, à un besoin particulier, mais il ne guérira pas le souci, voilà. Il ne guérira pas le problème profond.
On est à la bibliothèque Jean-Pierre Melville à Paris, dans le 13e arrondissement. Et je parle volontairement doucement parce que on est dans la salle de lecture, là. Et à côté de moi, il y a un jeune homme qui est en train de lire un ouvrage. Est-ce que je peux vous interrompre une seconde ?
Oui, bien sûr.
C'est quoi votre prénom ?
Nicolas.
Nicolas, si je me suis permis de vous interrompre dans votre lecture, c'est parce que j'étais intrigué par votre main gauche.
Oui. sur laquelle il est inscrit, donc sur les phalanges, paix.
C'est ça.
P-A-I-X.
Ouais.
Pourquoi vous êtes inscrit sur les phalanges ce mot, paix?
C'était une période un peu compliquée où dans ma vie il y a pas mal de violence, aussi beaucoup avec moi-même. Et bah de là, à un moment donné, je me suis dit bon, il faudrait quand même que je fasse quelque chose par rapport à cette violence. C'était aussi couplé à un travail sur moi-même que je faisais.
Et se manifestait comment cette violence?
Pas mal de violence physique, au travail et mentale quoi. Et à un moment donné, j'ai décidé de couplé avec ce travail sur moi-même aussi de l'inscrire quoi. Bon là, on va plus se battre, on va essayer d'éviter ce genre de choses quoi.
C'est quand même ouais. Pas anodin de se faire tatouer les mains.
Alors évidemment, il y a ce côté un peu punk de dire voilà, on va inscrire paix sur la main quoi. Tu l'as vu la paix quoi. Ouais, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Mais c'est vrai que là pour le coup pour moi, c'était plutôt une évidence quoi. Il fallait que ce soit quelque part où je puisse le voir, donc c'était pas forcément quelque chose pour les autres. C'était vraiment quelque chose pour moi-même quoi. Il fallait que ce soit un endroit où je puisse me rappeler assez souvent. Ouais.
Pour retrouver une espèce de sérénité intérieure à chaque fois que vous étiez appelé par vos démons.
Ou vraiment continuer le travail quoi. Ouais. C'est ça. Bah, de toute façon, c'est quelque chose de très personnel. Hein.
Alors, sur votre main gauche, il est inscrit paix.
Ouais.
Et sur la droite?
Sur la droite, c'est sur les phalanges. Donc, il y a un fouet de cuisine, une casserole et un couteau. Ça, c'était pour célébrer un peu mes 10 ans de cuisine.
Vous en avez d'autres, des tatouages?
Oui, j'en ai un autre sur l'épaule. Hold Fast.
Alors, c'est Hold avec un H, H-O-L-D, Fast. Ça veut dire quoi, Hold Fast?
Hold Fast, c'est tenir bon. Mmh. C'est ça. Ouais. C'est un peu un marqueur temporel pour moi où bon ça y est, je sais qu'il y a encore du travail, mais je me sens un peu plus, pas forcément fort, mais un peu plus apte à intégrer ce concept, même si des fois c'est encore un peu compliqué de rester neutre ou de rester soft. Il y a déjà moins de violence.
Cette violence, vous avez réussi à identifier d'où elle vient, Nicolas, ou pas?
Ouais, ça a été compliqué, mais j'ai réussi à l'identifier, ouais. Moi, j'étais hospitalisé pendant un an, j'avais 4 ans, par rapport à une maladie qui est pas ouf, donc il y a eu aussi pas mal de violence. Des attouchements, des viols qui se passent dans les hôpitaux, ça on n'en parle pas. J'en ai jamais vraiment parlé à mes parents d'ailleurs, parce que c'est pas quelque chose qui au final, je pense qu'un jour on arrivera peut-être à en parler, mais
des choses qui vous sont arrivées.
Ouais, bien sûr. Ouais. Mais c'est que bien après, quand j'ai commencé mes thérapies, où ça m'est revenu en fait.
En quoi, Nicolas, les tatouages viennent d'une certaine manière compléter ce travail thérapeutique, quoi? En quoi ils vous aident?
Déjà, j'ai eu pendant très longtemps un rapport un peu compliqué à mon corps. Je me suis pas mal reposé pour me permettre d'avancer sur beaucoup de lectures, des thérapies, et à un moment donné, il a fallu, j'ai vraiment pris le comme outil de maintenant c'est bon, on va plus loin quoi. Et c'est vrai que le corps a été la solution la plus simple, la plus efficace et la plus profonde peut-être. Ouais. Et pour moi, clairement le tatouage a été aussi une façon de le surmonter et aussi d'aller je sais pas trop comment dire ça, mais on les emmerde quoi. Tu vois ce que je veux dire, enfin clairement
donc c'est une manière de conjurer le mauvais sort quoi.
Ce serait bien. Ouais, bien sûr. Ouais. et aussi de s'en rappeler, quoi. Que de toute façon, c'est là, quoi. Donc, on peut pas faire autrement.
Ah, mon petit gars, tu regardes mes doigts. Aimerais-tu que je te raconte l'histoire du bien et du mal ?
Extrait de La Nuit du Chasseur de Charles Laughton.
Ça, c'est la haine. Et c'est avec cette main gauche que le frère Caïn tua Abel qui était aimé de Dieu. Ça, c'est l'amour. Voyez ces doigts, cher cœur, ces doigts ont les veines qui les relient à l'âme humaine. L'amour, c'est cette main, c'est la main droite. Regardez, c'est là l'image de la vie. Ces doigts, cher cœur, sont toujours en lutte les uns contre les autres. Regardez-les. Voilà la main gauche, frère. La main gauche de la haine au combat, qui écrase celle de l'amour. Mais patientez. Patientez un instant. La chaleur de l'amour vaincra. Oui, Seigneur. C'est l'amour qui l'emporte, tandis que la main de la haine doit s'avouer vaincue.
Je n'ai jamais rien entendu de plus beau. Je voudrais que toutes les âmes de notre communauté en tirent bénéfice.
Bringing in the sheep, we shall come rejoicing, bringing in the sheep, sowing in the morning, sowing seeds of kindness, sowing in the noontime and the dewy eve.
Vivre avec une enveloppe psychique trouée, c'est compliqué. Quand la peau extérieure subit des agressions, puis un viol, ça va être sacré à l'agression, l'enveloppe psychique se fissure complètement. Donc, à travers le tatouage, c'est une manière déjà de réparer ce trou béant, psychique, mais béant quand même. Mais c'est aussi se recréer. C'est aussi se recréer soi dans un désir de vie. C'est ne plus être une victime, en fait. Ne plus être cette personne qui a été abîmée, mais être quelqu'un d'autre de neuf, qui est à nouveau entier.
Mais est-ce que ça ne vient pas, d'une certaine manière, cristalliser ce traumatisme de l'inscrire dans la chair ?
Ça dépend du motif choisi. Oui, ça cristallise, évidemment. Ça cristallise, mais en même temps, ça peut être vécu comme... comme une espèce de médaille. Comme j'ai vécu ça, mais je m'en suis sortie, je suis plus forte. Ou plus fort, parce qu'il y a des hommes aussi, on n'oublie pas. Hein. On parle beaucoup des femmes qui vivent des agressions sexuelles, mais il y a des hommes aussi. Donc, oui, ça cristallise, oui, mais en même temps, c'est un rappel. C'est un rappel d'eux. Parce qu'on a tendance à vouloir, dans la société actuelle, à vouloir oublier ce genre de souvenirs, de passer à autre chose. Faut pas le dire. Faut que ce soit caché. Alors maintenant, la parole se libère, mais c'est vrai. Mais ça, on est vraiment là, typiquement, dans la parole bloquée, là, typiquement, avec ce genre de choses. Parce qu'on est vraiment dans une société qui veut pas que ce soit dit. Alors ça commence, mais on en parle un peu, mais encore faut-il que ça puisse être entendu. Là, j'ai un garçon, et c'est pas du tout une image positive, et pourtant c'était positif pour lui. Un garçon qui m'a pas dit rien du tout, qui m'a pas raconté sa vie au début et qui a fait une image de démon, monstre, mais en même temps très fort. C'est un démon qui vient des profondeurs, mais qui en même temps se bat contre les autres démons, quelque chose comme ça. Et je voyais bien pendant le tatouage qu'il y avait quelque chose, qu'il était agité, qu'il y avait... Enfin, que c'était compliqué, quoi. Mais du coup, je lui ai demandé, t'as été agressé quand t'étais plus jeune ? Et il m'a dit oui. Et on a continué le tatouage, on n'a pas, voilà, moi je suis pas thérapeute, hein. Enfin voilà, c'est pas... Ah justement, c'est pas une thérapie, je suis pas psy. Mais du coup, j'ai continué mon tatouage. Mais ça, je pense que... Je sais pas comment... Je l'ai pas revu depuis, je sais pas comment il vit avec, mais... D'une certaine manière, faire le tatouage, je pense que ça le fait passer à quelque chose d'autre. C'est une prise de conscience. Puis ça a été dit aussi. Il y a quelque chose qu'il n'avait jamais dit, peut-être, qui a été dit. Ça a été entendu. Son jugement. Voilà, ça peut aider.
Votre Votre prénom c'est Anne-Marie, mais votre surnom c'est Sou. D'où il vous vient ce surnom?
Exactement. Alors je suis asiatique et mon prénom Anne-Marie colle pas vraiment. Et quand on est adolescent, on aime bien faire des petits raccourcis. Donc de Anne-Marie, je suis passée à Sushi et je me le suis réapproprié, c'est devenu Sou. Au plus grand désarroi de mes parents.
Vous avez quel âge?
30 ans. Toutes mes dents.
Et beaucoup de tatouages?
Un peu plus de 16.
Qu'est-ce qui représente ces tatouages qui sont sur chacune de vos cuisses?
Alors, j'en ai un, c'est une tête de tigre en style acide traditionnel.
À côté, c'est quoi?
C'est un énorme T-Rex avec un chapeau haute forme qui fume son cigare et se sert son whisky dans sa tasse de thé. Ça, c'est... Il est un peu spécial, c'est parce que j'ai célébré le fait d'être sobre. Parce que ben, plus jeune, monde de la nuit, les copains qui font la fête, les clients du bar qui « Ah, oh, ben, tu prendras bien un verre avec nous !» Et de fil en aiguille, on finit par boire beaucoup, par peut-être consommer d'autres trucs. Et du jour au lendemain, en fait, ça m'a saoulée. Du coup, j'ai tout arrêté. Et moi, cette petite victoire, j'ai décidé de me la mettre sur la peau et de me rappeler que bah ouais, j'ai réussi à m'en sortir. Voilà, c'est une démarche, je trouve, équilibrée, entre guillemets. Parce que la vie, c'est aussi ça. C'est des aléas, c'est des grandes joies, des grandes tristesses aussi. Et j'aime beaucoup le fait d'utiliser l'encre et ma peau, au final, pour me réapproprier ces éléments-là.
Vous entretenez quelle relation à votre corps, vous, Sou?
Pendant très longtemps, lui et moi, on ne s'entendait pas. Parce qu'il y a eu la puberté, il y a eu les problèmes hormonaux... la poitrine, le poids, j'étais pas très contente parce que j'aimais beaucoup faire courir un peu partout, qu'on me prenne pour un garçon, c'était très pratique. Et là, corps de fille, oh, qu'est-ce que c'était pénible. Puis sont venus les problèmes liés au fait d'être physiquement une fille, les agressions, les remarques. T'es une fille, ah bah ça veut dire que si t'as une jupe, je peux passer ma main en dessous. Et ça a été difficile. Ça a été difficile parce qu'on se cache, on n'est pas à l'aise dans nos vêtements. Et le tatouage là-dessus m'a pas mal aidé parce que bah, c'est à moi, encore une fois. Ça me recouvre. C'est un petit peu comme un petit plaid doudou. Dans le sens où ces zones-là où les gens regardent, les gens veulent juger, bah, je leur ai donné quelque chose à regarder. Et moi, ils me laissent tranquille.
C'est comme si ça détournait le regard de votre corps.
Et je les perds en plus de ça dans des histoires. Si c'est pas un tour de magicien, ça.
Luc Renaud, vous êtes historien de l'art à l'Université de Grenoble, spécialiste des images antiques et paléo-chrétiennes. Et devant nous, vous avez représenté la fameuse momie Ötzi, découverte en 1991 à la frontière italo-autrichienne. Et on a notamment découvert qu'elle avait sur le corps, je crois, plus d'une soixantaine de marques.
Effectivement, ce personnage qui est mort à haute altitude, a succombé probablement à des blessures vers 3500 avant notre ère, donc à la fin du néolithique, à une période où évidemment il n'y a pas d'écriture en Europe, il n'y a pas d'état organisé, et il présente sur le dos, sur le bas du dos, sur les jambes et sur le poignet des lignes, des petits traits qui sont juxtaposés les uns à côté des autres et qui forment des petits blocs. Il y a aussi une petite croix sur l'intérieur du genou et puis sur une des chevilles. Alors, selon toute vraisemblance, ce sont des tatouages qui ont sans doute été effectués pour combattre un problème physique, des douleurs dorsales, a-t-on pensé, pourquoi pas une sciatique qui descendrait dans les jambes, On a pensé à d'autres affections plus générales. Alors là, on a étudié ce corps de différentes manières. Il souffrait peut-être aussi d'arthrose. Et on a considéré dans cette société qu'en perçant la peau, en blessant la peau, on peut produire quand même un effet bénéfique. Alors pourquoi ? Parce que ça, c'est aussi quelque chose qui a favorisé les mutilations corporelles à but thérapeutique, c'est qu'il y a un effet d'analogie. Souvent, dans l'acupuncture, comme dans ces traditions de tatouage thérapeutique, l'idée parfois qu'on va pouvoir couper la route à un fluide néfaste, ou au contraire, le stimuler pour qu'il aille au bon endroit.
Autre représentation, Luc Renaud, celle de l'homme de Pazyryk, découvert en 1949, homme qui daterait de 350 avant Jésus-Christ, c'est ça ?
350 ou peut-être même plus récent, selon la datation de sa chambre funéraire, qui était une chambre en rondin de bois, enterrée, dans laquelle on avait déposé le défunt, et parfois plusieurs défunts, qui ont été en partie momifié, c'est-à-dire qu'on avait préparé un peu les corps en retirant, si je me souviens bien, un certain nombre d'organes pour éviter la putréfaction. Et donc les peaux ont été en partie conservées. Mais pour celui que l'on a devant les yeux, effectivement, en grande partie, il possède sur les bras, sur le dos et sur les jambes des motifs tout à fait extraordinaires, puisque là, on est loin des simples petits traits de tsi. Ici, on a des figures animales, des figures hybrides qui mélangent griffons, cerfs, qui ont des queues qui s'enroulent autour du dos, des pattes griffues qui ouvrent la bouche, qui courent, qui sont en mouvement. C'est un style assez curviligne, assez animé, hein, tout à fait extraordinaire, alors qu'il y a certainement un objectif ornemental, hein, évident. Mais ce personnage a aussi, dans le bas du dos, un certain nombre de points des deux côtés de la colonne vertébrale, on en a au moins une quinzaine ou une vingtaine, qui, eux, n'ont pas de fonction ornementale et qui ont probablement été tatoués pour prévenir, soigner ou essayer d'enrayer un mal de dos.
Séance de tatouage de l'aréole et du téton après une reconstruction mammaire avec Alexia Cassard et Sonia.
Allez, enlevez-moi ce beau soutien-gorge.
Bah, ça commence à tomber, hein. C'est fini le sport, le cheval et tout. Hein. Mais bon.
Et il y en a qui aimeraient être servis comme vous, avoir une reconstruction aussi efficace. Et en tout cas, moi, de ce que je vois, on est à presque 8 ans hein, de ce tatouage. Hein.
Oui.
Il n'a pas perdu tant que ça de sa superbe. On voit moins, effectivement, les petits détails, mais il est toujours là. On va juste lui redonner un peu de présence et on va lui redonner un peu de vie.
Qu'est-ce que vous aviez fait donc, il y a 7 ans ?
On m'a retiré le sein. On a pris comme une banane
sur
la peau du ventre. Et avec cette banane de chou de chair, je ne sais pas ce qu'il y avait dedans, on m'a refait ça. Voilà.
Ça s'appelle un Dieppe. C'est une technique de reconstruction extrêmement avancée, qui est merveilleuse, parce que c'est, vous voyez, c'est extrêmement symétrique. C'est votre chair.
C'est ce que je dis.
Il n'y a pas d'implant, il n'y a pas d'élément extérieur.
Je ne voulais pas d'élément extérieur.
Vous êtes passé par là, à un âge quand même...
Bah, 2017.
8 ans.
1981, moins 8.
73 ans.
Bon, bah, oui, c'est ça, 73 ans.
73 ans, c'est un âge qu'on pourrait considérer comme avancé.
Oui.
Pour une intervention aussi importante et lourde.
Il m'a dit, oui.
Donc, vous êtes aussi un témoin, sans forcer la main à celles qui décident de ne pas faire de reconstruction, mais de dire à celles qui ont peur que c'est possible et que si c'est bien fait, ça peut être aussi quelque chose qui vous fait tourner la page.
Et pour ne rien vous cacher, ça a été un truc rigolo, mon mari était fou. Je vais à Deauville, on va manger au restaurant. On était serrés les uns contre les autres. J'entends une dame à côté d'un certain âge qui parle de sa belle-sœur qui avait un cancer du sein, qui ne savait pas quoi faire parce que c'était dramatique, c'était affligeant, elle était défigurée. Enfin, ouais. Bah, je lui ai dit, bah, écoutez, vous lui direz que vous m'avez vu, je ne vous connais pas. J'ai levé mon pull, il y avait 50 personnes. J'ai regardé, dites-lui, faites une photo si vous voulez, dites-lui la reconstruction, voilà ce que ça donne. Et j'étais passée par vos mains.
Ah, vous aviez déjà fait le tatouage ?
Oui, on avait fait le tatouage il y a 3 ans de ça.
Wow.
Donc, pas, pour moi, pas de souci.
Alors, c'est là où le verdict va tomber.
C'est-à-dire,
est-ce, que, est-ce que ça a bougé ou pas? Donc là, je cercle l'emplacement du tatouage pour délimiter la zone que je vais retatouer. Donc là, on a une couleur qui est restée assez similaire. Au final, on a perdu en intensité.
Un peu plus clair. Hein,
voilà, on a perdu un peu en intensité dans l'aréole et puis dans les reliefs, en fait, qu'on a un peu perdu. Mais il y avait un mamelon qui était assez clair. Et donc, tout le travail du tatouage 3D, c'est de reproduire ce qu'on voit et donc de travailler sur des particularités. Donc, nous, on se voit au bout de 7 ans, 8 ans. Oui. Mais si vous aviez fait ce tatouage à l'hôpital, il aurait été un peu standardisé, probablement moins réaliste. Il n'aurait pas pu avoir autant de détails parce qu'il faut quand même savoir dessiner pour reproduire ce genre de petites merveilles de la nature. Et surtout, il aurait fallu le refaire tous les ans. Donc alors, là, on est en train de définir la couleur. Donc, je vais essayer de me rapprocher d'une couleur qui soit la plus proche possible de l'aréole actuelle du mamelon de Sonia pour proposer quelque chose qui lui ravive sans venir non plus faire quelque chose de trop foncé. Mmh. On a une quarantaine de couleurs, en fait, qui sont toutes des couleurs plutôt des couleurs chères. Donc, j'utilise des petites teintes que je viens mélanger jusqu'à ce que j'obtienne la teinte qui me paraît la plus adaptée. Et donc... de permettre de faire cette espèce de dégradé de couleurs qui va donner en fait cette sensation de relief.
Vous faites des couleurs, vous faites des fleurs, vous faites des cœurs. Alors moi c'est simplement le mamelon. Hein. C'est
95% de ce que je fais, Sonia, c'est plus les mamelons.
Ah bon ?
Les fleurs, les petites choses un peu délirantes, c'est entre 5 et 10% de ma clientèle.
Mais je pense que si j'avais eu de la chimio, peut-être que j'aurais été moins sereine.
Moi, celles que je vois, pour la plupart, elles ont eu chimio, radiothérapie, opération, etc. Il y a ce parcours difficile et douloureux. Et donc, si c'est une fleur pour mettre un peu de poésie sur une cicatrice qui barre le thorax et qui n'est pas reconstruite, ben, ça a tout aussi grande importance que ce petit téton qu'on va se faire plaisir à raviver ensemble.
C'est pour ça que je vous êtes dans mon cœur toujours présente.
Eh ben c'est fait. Et c'est bon. Et on est là.
Ouais, c'est bien. Je suis contente de vous voir. Je suis contente de repasser par vos mains expertes.
Alors j'allume ma petite machine. Donc, on est parti.
Vous évoquez dans votre mémoire ces femmes amazones.
Oui, 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 parce qu'il y a des femmes qui revendiquent et qui ce choix de ne pas avoir la symétrie de leur sein. Donc, plutôt que de passer encore des heures et des heures sur une table, d'opération et se faire mettre des prothèses qui vont pas forcément tenir, qui vont pas forcément être joli, ou ça va pas respecter la symétrie, ou ça va être dur, parfois c'est douloureux. Il y en a certaines qui veulent pas.
Et donc
qui font le choix des tatouages.
Et donc ces femmes, vous leur proposez un grand motif floral ou
Alors on peut faire soit des tatouages qui vont reproduire des mamelons, par exemple. Moi, c'est pas ce que je fais. Moi, je fais des tatouages plutôt esthétiques. Enfin, tatouage qui représente des fleurs, enfin voilà, au choix de la dame, mais
sur la cicatrice, à l'emplacement du sein. Amputé, mutilé. Enfin,
voilà, exactement.
Et alors, ça permet quoi?
De se regarder dans la glace, déjà. Et puis, elles ont envie de se redécouvrir, d'habiter leur peau. Parce qu'elles habitent plus leur peau, elles se voient même plus. Elles acceptent, parfois, certaines n'acceptent même pas qu'on les touche. Surtout pas le sein coupé, enfin voilà, ça crée soit plus de sensations, soit des sensations extrêmes, enfin ça change. Elles ont plus. Leur corps a été. Alors là, pour le coup, le moi-peau, il a été complètement abîmé, quoi, en fait. Et du coup, on remet de l'humanité un peu dans tout ça. On remet un peu de. Voilà, un peu de douceur. Ça peut paraître un peu étonnant de dire de la douceur quand on parle de tatouage, parce que ça fait mal. Mais oui, il y a de la douceur. Le tatouage, oui, il fait mal. Mais tout ce qui l'entoure, non. On remet vraiment du dialogue, du choix.
Du soin.
Du soin, l'écoute. Ouais. Il se passe des choses très fortes. Des deux côtés, hein. Il se passe des choses très fortes.
Ok, Ok.
Attendez. Vous allez vous relever tout doucement. Vous ne fassiez pas un petit malaise vagal.
Ah oui, ça peut arriver. Parce que me reproche mon mari de sauter de mon lit le matin en me disant, Sonia, c'est pas bon, un jour tu vas tomber sur la commode.
C'est pour ça que je vous remonte tout doucement. Alors, vous allez vous poser vos pieds tout doucement, vous tournez. Vous allez vous rhabiller tranquillement parce que je vous ai vous emmené jusqu'au miroir pour que vous puissiez vous voir. Alors, je vais relever le petit rideau. Attention à vous. Je prends mon petit téléphone pour faire le film. Vous êtes prête?
Oui.
Je vais vous mettre un peu de lumière. Qu'est-ce que vous en dites?
Oh ben, il est superbe. C'est l'autre qui va être obligé de passer au tatouage aussi. Hein,
non, parce que non, du coup, l'autre, il va s'affadir un peu en couleur, mais il a retrouvé un peu de peps.
Et mon mari, il va être ravi. Ça l'a inquiété que j'aille chez un tatoueur. Il m'a dit, attends, les tatoueurs, tu te rends compte, les têtes de mort, les machins.
Ah oui,
on est bien entourés d'ailleurs ici.
On montre pas ce qu'il y a là-bas, dans le coin.
Ah oui, tiens, oh, bah oui, tiens, pas mal. Bah oui, ça. Non, mais je suis heureuse de me retrouver. Et depuis que vous m'avez tatouée, et là maintenant, retatouage, je suis complète.
Tatouage doit dater de 89-90.
Jean-Paul Cluzel, ancien président de Radio France et du Grand Palais.
Il se trouvait que je vivais avec un homme qui, lui, portait le VIH. On disait qu'il avait le sida. Et moi, je venais d'être contaminé par un mec qui me l'a d'ailleurs filé volontairement. Et ce tatouage a répondu à plusieurs choses. D'abord, le motif de ce tatouage, qui est sur ma fesse, représente une salamandre, parce que la salamandre passe à travers le feu et résiste. Ben moi, j'avais passé à travers le VIH et j'allais y survivre. Je pense que ce sont plutôt les traitements qui ont fait que j'ai survécu que le tatouage, mais enfin, bon.
Cette salamandre, Jean-Paul Cluzel, oui. C'est une forme de talisman?
Je crois qu'elle le reste. Elle le reste, oui. Qu'une fois, ça faisait partie d'une volonté magique de survie. Un moment où il n'y avait pas de traitement, et puis une volonté de séduction, oui. Ça, c'est peut-être ça, au fond, en parlant avec vous, le sujet fondamental. Comme beaucoup de gays aussi de ma génération, je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui, on ne se trouvait pas jamais assez viril. Donc c'est pour ça qu'on a coupé nos cheveux très courts, qu'on s'est mis une barbe, voilà, il fallait être plus mec que les mecs.
Et donc les tatouages participaient de cette virilité?
Exactement, exactement. C'est ça le point fondamental pour moi. Il y avait un deuxième point, c'est que le sexe était très important pour moi. Je trouvais que, voilà, je suis versatile. Et voilà, j'avais des fesses correctes à l'époque et j'aimais bien les montrer. Donc, voilà, il y a même la queue de la salamandre qui entoure mon cul carrément. Et voilà, ça fait, disons, un petit charme de plus. Donc voilà, c'était ça ma motivation. Elle n'était pas très intellectuelle et j'appartiens à une génération d'homosexuels. On n'a pas réfléchi à notre homosexualité. C'était une manière de vivre notre sexualité normale. Point. Voilà. C'est I am what I am. C'est Gloria Gaynor, clairement. Parce qu'en plus, quand j'étais plus jeune, j'aimais bien me montrer torse nu mes tatouages dans les discothèques. Évidemment, c'était très important. Donc oui, c'est I am what I am. Ça, c'est clair.
Vous êtes qui vous êtes?
Oui, je suis qui je suis.
Vous nous l'entonneriez?
C'est rude. I am what I am, and what I am need no excuses. On arrête.
On confie la suite à Gloria Gaynor?
Oui, peut-être.
I am what I am my own special creation. So come take a look, give me the hook or the ovation. It's my world. that I want to have a little pride in my world, and it's not a place I have to hide in. Life's not worth a damn till you can say I am what I am.
On va pas choisir un dragon par hasard. On va pas choisir une petite coccinelle par hasard. Il se passe des choses quand on choisit un motif qui n'est pas forcément conscient tout de suite. Parfois même, c'est, je trouve avec certains clients, c'est intéressant, c'est qu'ils choisissent de faire plusieurs tatouages qui n'ont pas de rapport les uns avec les autres. Et puis, des années plus tard, ils viennent « Ah mais oui, mais en fait, ils font le lien. » Et là, c'est mis en mots. Les mots M-A-U-X sont mis en mots M-O-T-S, mais grâce à l'image et grâce au tatouage. Sinon, il n'y avait pas de... Ouais, il fallait que ça sorte.
Exemple.
Un monsieur qui sortait de prison, tout juste, et la première chose qu'il a fait, c'est aller se faire tatouer un lion. Ça faisait 12 ans qu'il était en prison. Il était complètement largué, le pauvre. Il était 11h, il fallait qu'il fasse pipi parce qu'il faisait vraiment pipi tous les jours à 11h. Enfin voilà, c'était... Oui, il fallait qu'il se remette dans la vie hors prison. Et il avait besoin de retrouver de la force. Donc, quand je dis que le tatouage est un métalangage archaïque, on est vraiment là-dedans, dans quelque chose d'archaïque, oui, d'un besoin primitif, s'ancré dans la peau, quelque chose qui va nous rendre plus forts ou qui va nous aider à passer quelque chose. Comme si se faire tatouer, c'était expérimenter notre pulsion de vie. Vraiment, dans sa chair. On est vraiment dans quelque chose profondément humain. Hein. On a besoin des rituels. Parce qu'il y a un côté rituel dans le tatouage, vraiment. On a une idée, on va se mettre dans un état particulier, il va y avoir la douleur. La douleur est très importante parce qu'elle marque un passage. On le sent dans sa chair. Il y a toute la phase de cicatrisation qui est très importante parce qu'on prend soin de soi, chose qu'on ne fait pas forcément, qu'on oublie de faire. Et puis ensuite, on porte une marque qu'on a choisie. Symboliquement, c'est très fort. Et par rapport au deuil, cette marque qu'on porte sur la peau, elle transcende la mort quelque part. Elle l'aide à avancer, peut-être.
C'est une manière de dire tu vis toujours en moi, tu vis toujours sur moi.
Tu vis toujours en moi, j'étais dans la peau. Enfin, on peut s'amuser avec les mots. Oui.
Je ne t'oublie pas.
Je ne t'oublie pas.
Et possible. Je ne t'oublierai pas jusqu'à ma propre mort.
Et je ne t'oublierai pas jusqu'à ma propre mort. C'est très fort. Et oui, c'est très fort. Et ça fait de moi quelqu'un d'autre, de nouveau. C'est comme une mue, en fait. On enlève notre ancienne peau et on en gagne une nouvelle.
Comme les serpents.
Un peu. C'est qu'en général, quand on mue, enfin les animaux qui muent, ils ont une nouvelle peau plus forte. Ben, c'est un peu ça l'idée.
On en ressort revigoré.
On ressort revigoré et vivant, avec cette sensation d'avoir, d'être vivant. Parce que quand quelqu'un meurt, auquel on tient beaucoup, on meurt un peu avec lui. Il y a une partie de nous qui meurt aussi un peu. Je pense notamment... Là, j'ai un exemple bien précis, mais ça fait longtemps. J'étais vraiment débutante. Je suis tatouée depuis 2 ans. Et il y a une journaliste de guerre, je ne sais plus de quel journal, qui était venue se faire tatouer et elle venait juste de perdre son mari, qui était photographe de guerre. Elle rentrait du front, quoi, en gros. Complètement perdue. Mais la première chose qu'elle a fait, c'est de se faire tatouer.
Thank you. séance, on est ici dans votre salon. Et autour de nous, il y a des œuvres accrochées au mur. De qui sont-elles? Qu'est-ce qu'elles racontent?
Certaines sont de moi, mais beaucoup sont de ma fille Caroline. Caroline Prena, qui est donc ma petite puce, qui est donc décédée maintenant. Et elle était devenue graphiste. Et dans mon salon, il y a certains dessins qu'elle avait donc faits pendant ses études. Et quand il est arrivé, un petit peu après le 13 novembre, quand j'ai regardé à nouveau, que j'ai récupéré, que j'ai trié, regardé ses affaires et ses dessins, entre autres, il y avait quelques-uns qui m'ont beaucoup, beaucoup parlé de ce qui lui est arrivé.
13 novembre 2015. Hein.
13 novembre 2015.
Le jour des attentats.
Au Bataclan, puisqu'elle était au Bataclan. Au bar, puisqu'elle allait s'acheter une bière. J'avais toujours dit que la bière la perdrait. Et entre autres, un des dessins, ce sont des taches noires avec une espèce de chemin blanc triangulaire. Et dessus sont écrits des signes et des hommes. Et pour moi, alors je ne comprenais pas pourquoi elle avait fait ce dessin. Et quand je l'ai revu après, pour moi, c'est le tir de Kalash qui nous l'a enlevé. Il y a également un dessin où elle est un petit peu perdue dans la forêt de cactus et autres, qui est noir et blanc avec une petite touche de vert et son logo de graphiste, Caro. Un K, un petit tiret et le R et le O.
Après la disparition de Caroline, Florence, vous avez décidé de vous faire tatouer.
Oui.
Alors qu'a priori, rien ne vous prédisposait.
Pas du tout même.
À le faire.
Chacun se fait tatouer, il n'y a aucun espèce de souci. Mais moi, c'est non. J'ai le corps que j'ai et donc je ne le change pas. Ma fille est revenue d'un voyage avec ses copines avec un tatouage. Elle m'en a pas parlé parce qu'elle savait que je n'aimais pas ça. Mais dans la discussion, elle relève les manches et bien évidemment, je vois son tatouage. Donc je fais une drôle de tête. Elle me dit ah, donc elle cache tout. Je dis non, c'est trop tard. Et donc en fait, elle avait fait avec ses quatre copines avec qui elle voulait faire le tour du monde une espèce d'avion qui est en fait un triangle barré en son centre. Et donc quand Caro est décédée, pratiquement tout de suite, j'ai voulu prendre quelque chose d'elle et me l'approprier. Et donc j'ai refait cet avion. Et dans le même temps, Caroline, c'était plein de surnoms et entre autres pour moi Carotte. Et elle avait collé avant de partir à Paris une carotte sur mon ordinateur, un peu stylisée. Elle m'a dit « comme ça tu penseras à moi tous les jours maman ». Et j'ai repris ce dessin stylisé de mon ordinateur et je me le suis tatoué sur ma cheville gauche. Donc ça, ce sont mes deux premiers tatouages que j'ai fait, pas 8 jours après, parce qu'il a fallu faire l'enterrement, etc. Mais je dirais 3 semaines après. Le tatouage, c'était elle dans ma peau. Je l'ai porté, c'était ma puce, j'ai pas pu la soigner en plus, et c'était elle dans ma peau en fait. Et elle partira pas. Là, c'est sûr, certain, je l'ai toujours avec moi. Et j'ai 2 autres tatouages, dont un que je voulais mettre sur mon cou, derrière mon oreille droite. Excusez-moi, je vais être un petit peu dure. C'est la sortie de balle de Caro, en fait.
Donc cette balle de Kalachnikov qu'elle s'est prise, c'est ça?
C'est la balle de Kalachnikov qu'elle s'est prise. Voilà, elle est rentrée dans son oreille gauche, où j'ai un petit tatouage dans l'oreille gauche. Et elle est ressortie juste derrière son oreille droite. Et donc le dessin, je l'ai dessiné avant. J'ai dessiné un tatouage avec une aile d'ange, une aile de papillon.
Donc ces deux ailes, elles sont reliées par l'initiale de son prénom?
Par l'initiale de son prénom, oui. Voilà, ça c'est le 1, 2, 3e tatouage.
Il y en a encore un autre?
Oui, que j'ai fait il y a 1 an. En fait, quand elle était au Bataclan, que les policiers sont rentrés, ils ont mis un petit cavalier jaune à chaque personne qui était allongé par terre avec un numéro pour pouvoir les reconnaître. Et j'ai eu besoin également de remettre à ce même endroit quel jour on l'a découverte. Donc on l'a découverte le samedi 14. Et l'heure à laquelle c'était marqué, c'était 5 heures. Donc j'ai refait un tatouage avec ce bracelet qui était sur son bras.
Est-ce que vous avez l'impression que ces tatouages vous aident à vivre?
En tout cas, c'est difficile à dire. Vraiment, à ce moment-là, c'était une obligation. C'était un besoin viscéral. Et elle est en moi, elle est avec moi, elle est sur moi. Et ben, de ce fait-là, elle ne pourra plus me quitter, même si physiquement, elle est partie. Ce qui est très difficile. Alors, ça ne compense pas, hein, ça, c'est évident. C'est peut-être un peu thérapeutique.
Quand vous regardez vos tatouages, vous pensez à elle tous les jours? Quand vous regardez dans la glace, ou vous finissez par les oublier?
Au début, je voulais même les montrer à tout le monde. Je relevais les manches dans le métro, tout ça. Bon, personne ne savait ce que c'était, mais c'est pas grave. J'étais très fière de moi, en fait, d'avoir mis des tatouages. Maintenant, non, je les oublie. De temps en temps, j'y pense. De temps en temps, le plus facile, c'est celui qui est sur mon poignet gauche. Hein, je peux lui faire un bisou. Donc, de temps en temps, je lui fais un bisou.
C'est lequel sur le poignet gauche, rappelez-nous?
C'est le triangle avion, et son logo de carreau, son logo de graphiste, qui sont donc associés presque l'un contre l'autre.
On est ici dans votre studio photo, Olivier Roller, dans le 11e arrondissement, à deux pas du Bataclan. Et si j'évoque la proximité du Bataclan, c'est parce que vous avez publié un ouvrage qui s'intitule « Bataclan, mémoire, photographie, récit, tatouage ». Et je me demandais comment il avait pris corps.
Ce sujet est venu parce qu'un jour, ici dans mon studio, je photographie un type que je connais pas, qui s'appelle Christophe. Je lui dis « Tiens, tu veux pas enlever ta chemise, s'il te plaît, parce que j'ai besoin d'un autre haut, en fait, pour finir l'image ?» Et là, il se dénude à moitié et apparaît sur son bras un magnifique tatouage. Et le tatouage de Christophe, c'est deux squelettes qui sont comme dans une danse. Et en fait, ça s'appelle la danse macabre. C'est vers la fin du Moyen-Âge en Allemagne. Et donc, je dis à Christophe, « Ah, mais tiens, il est beau ton tatouage. » Et en plus, ça me fait penser à ça. Et il me dit, « Bah ouais, c'est ça. »
Alors, ce Christophe, c'est Christophe Naudin. Il est à vos côtés. C'est vous qui allez raconter la suite.
En fait, à la base, j'avais zéro tatouage. J'ai fait un premier tatouage sur l'épaule gauche qui est vraiment un hommage à mon ami qui a été tué au Bataclan. Donc, c'est plus classique. Il y a la silhouette d'une femme qui est reprise d'un t-shirt des Eagles Death Metal. Il y a une rose et il y a la date. Et je me suis dit, ensuite, il faut que j'en fasse d'autres. Et les danses macabres sont venues, on va dire, naturellement. Et je me suis dit, je vais consacrer un bras à ça. Le bras, en plus, qui c'est le bras droit. En fait, on était dans un KGB, une vingtaine de personnes, même plus sur les uns sur les autres. Et j'avais ce bras coincé. Je m'en rendais pas compte sur le coup. Et c'est ensuite que j'ai eu des sortes de séquelles où il est souvent engourdi, etc. Et je me suis dit, c'est le bon endroit. Et les danses macabres... Il y avait un côté très humour noir et ironique où ces squelettes se moquaient des vivants en leur disant que vous soyez noble, pauvre ou du clergé, vous allez finir comme nous. Donc il y a une sorte de... On rigole avec la mort, en fait. Il y a un des deux personnages qui fait le signe du démon, là, le signe des métalleux. Donc je trouvais ça pas mal de rajouter ce petit truc. Et tout de suite, ça a tilté avec le Bataclan, en fait.
En fait, le tatouage, c'est intéressant parce que moi, j'en ai pas, mais en ayant vraiment observé avec précision ceux des rescapés du 13 novembre. Il y en a, là, qu'on a sous les yeux, qui s'appelle Gabin, qui s'est fait sur l'avant-bras cette phrase, « I kiss the devil and I'm still alive ». Donc, j'ai embrassé le diable et je suis toujours vivant. Et c'est un parfait résumé, en fait, me semble-t-il, hein, de cette soirée. Christophe en parlerait mieux que moi. Mais dans toutes ces rencontres, en fait, il y a vraiment ça. Il y a la culpabilité du survivant. Il y a la manière de s'inscrire, en fait, une blessure choisie sur l'épiderme, tout comme d'autres ont des cicatrices de balles. Et du coup, il fallait comprendre, en fait, ça. Parce que moi, qui suis un ignorant, j'étais pas là. Je peux pas même imaginer en fait ce que ces personnes ont vécu. Donc du coup, l'enjeu de cette rencontre à travers le tatouage, c'est une façon pour nous qui n'avons pas vécu ça, d'essayer d'un tout petit peu comprendre ce que ça peut être.
Est-ce que vous avez le sentiment que le fait de vous être fait tatouer vous a aidé à surmonter ce drame ou pas?
Je sais que la blessure du 13, psychologique, elle est de toute façon indélébile. Ça, on l'a très vite tous compris, qu'il fallait vivre avec. Comme on sait qu'on va pas oublier, moi je me dis, bah, effectivement, je vais me faire une sorte de, oui, de blessure choisie qui va compenser la blessure de l'attentat. De toute façon, le 13, j'y pense tous les jours. Mais j'y pense tous les jours de façon maintenant apaisée. Et le tatouage fait partie de ça, mais c'est la version pour moi positive de cette réminiscence du 13, en fait. Voilà. Mais oui, ça fait... Ouais, je pourrais pas vivre sans maintenant. Voilà.
C'était Tatouage, des mondes sur la peau, épisode 3, une thérapie par l'aiguille. Un documentaire de Jérôme Sandlars, réalisé par David Jacuboviez. Avec Héloïse Gay de Bélissène, Sophie Dunoyer, dite la marquise de Salem, Nicolas, Sue, Luc Renaud, Alexia Cassard, Sonia, Jean-Paul Cluzel, Florence, Olivier Roller et Christophe Naudin. Et un extrait de La nuit du chasseur de Charles Laughton avec Robert Mitchum dans le rôle principal. Documentation, Anne-Lise Signoret. Prise de son, Maëlle Larfassor, Johanna Gabric et Manon Houssin. Mixage, Dophar Guéride. Chargée de programme, Anaï Morales et Marie-Vonne Abolivier. Coordination, Emmanuel Laurentin. À suivre, épisode 4, une histoire universelle. Time, time, time.